Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant.
Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école.
Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change.
Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves.
Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Martin. Diplômée en lettres et communication de l'Université Lyon 2 et de la Royal Holloway University of London, Vanessa travaille depuis août 2009 pour l'ONG internationale Action Éducation. À travers plus de 103 projets, Action Éducation mène des actions de développement par l'éducation et accompagne de nombreux acteurs locaux dans 19 pays en Afrique, en Asie et en Europe pour favoriser l'apprentissage tout au long de la vie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Vanessa, comment vas-tu ?
À tous. Ça va très bien, pas de problème.
Ça va bien. Ouais. Écoute, très bien, merci. Je vais faire comme d'habitude, j'aime bien que mes invités se présentent avant qu'on commence notre échange, donc je vais te laisser te présenter Vanessa. Qui es-tu ? Que fais-tu ?
Alors, je suis responsable de plaidoyer pour une ONG qui s'appelle donc Action Éducation et qui a pour mission de défendre le droit à l'éducation, on va dire dans le monde pour être très large, en Afrique, en Asie, mais également en France, en Roumanie et en Bulgarie. Et responsable de plaidoyer, je vais peut-être un petit peu expliciter parce que...
Oui.
A priori, c'est pas très très clair. En fait, mon rôle à moi est d'aller convaincre les décideurs politiques d'allouer davantage de moyens, de fonds, de moyens RH et financiers à l'éducation en matière, quand on parle d'aide au développement, d'aide à l'éducation dans les autres pays.
Ok.
Voilà. Principalement.
J'imagine que tu as de quoi faire.
Oui, surtout en ce moment. Effectivement, il y a beaucoup de marge de manœuvre pour allouer davantage de fonds à l'éducation, sans aucun doute. Et
oui,
le public n'est pas toujours acquis.
C'est ça.
On a tendance à mettre l'éducation un peu de côté, un peu sous la table, au profit d'autres urgences. Et dans un monde comme le nôtre, des urgences, il y en a malheureusement tout le temps. Donc, l'éducation est en train d'être passée un peu sous le tapis, si j'ose dire.
Et oui, c'est ça. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été un peu le cas ?
Si. Ça a été le cas. Ça a été le cas. C'est ça le plus comique ou le plus malheureux, je ne sais pas. Mais effectivement, l'éducation a toujours été un peu le parent pauvre. On privilégie des secteurs qui sont jugés plus importants ou plus en crise, la santé, l'alimentation, l'accès à l'eau. Et effectivement, l'éducation, pendant des années, a été laissée un peu de côté. Alors, on a obtenu quand même pas mal de progrès, pour connaître, davantage d'enfants qui vont à l'école, davantage d'enseignants formés. Et on a réussi à faire en sorte que l'éducation soit remise en haut du panier, qu'on en parle davantage, qu'on se mobilise davantage. Mais aujourd'hui, avec la multiplication des crises, on s'aperçoit que l'éducation a tendance un peu à être léguée en fin de course.
Et c'est ce que tu constates sur l'ensemble des pays sur lesquels tu travailles ou c'est vraiment purement français, par exemple ?
Ah non, c'est un constat sur l'ensemble des pays, en fait. Après, c'est une réalité qui est économique, en fait. La pandémie de la COVID-19 a fait beaucoup de dégâts.
Ouais.
Elle a obligé beaucoup d'États donc à tout fermer, à mettre en stand-by l'économie. Et donc, les problèmes économiques sont revenus au premier plan avec les problèmes sanitaires. Et donc, forcément, dans ces circonstances, les choix s'imposent pour tous les pays, en fait. Et quand il s'agit de savoir où on va allouer le budget, la priorité, c'est pas l'éducation. On va le mettre sur la santé, on va le mettre sur des réformes économiques, on va demander à faire des économies. Mais du coup, l'éducation, malheureusement, est l'une des premières victimes de cette situation.
Alors qu'il semblerait qu'on soit d'accord, en fait, tout part de l'éducation, ça devrait être...
Ah mais ouais. ce slogan, j'ai envie de dire, c'est le nôtre, puisque nous, c'est « tout commence par l'éducation ». Donc voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Bien sûr, tout commence par l'éducation. Sans éducation, il n'y a aucun progrès sanitaire, économique, il n'y a pas de droits fondamentaux. Aller à l'école, c'est une restrictif. Être éduqué, parce qu'on peut être éduqué sans aller à l'école, c'est connaître ses droits, savoir les défendre, avoir l'esprit critique, savoir réfléchir, savoir se poser les bonnes questions, savoir s'adapter. Enfin, véritablement, c'est le cœur de toute vie citoyenne, toute vie économique, toute vie tout court, en fait. Il n'y a pas d'autre alternative que l'éducation.
Mais complètement, ouais. Mais une question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui a fait à un moment donné dans ta vie que tu as eu envie de mettre autant d'énergie? Parce que j'imagine que tu dois mettre beaucoup d'énergie, que ça doit être très énergivore et chronophage ce que tu fais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne suis pas sûre qu'il se soit passé grand-chose. En fait, je pense que comme toutes les vies de chacun, il y a une part de d'inné, quelque chose qui était en nous, et puis il y a une part de hasard. Dans mon cas, l'inné, on va dire, c'est tout simplement fille de prof, en fait. Toute une famille de profs. Que déjà une certaine sensibilité pour l'éducation, bien sûr. L'importance de l'éducation qui était très ancrée dans ma famille. Voilà, il fallait faire des études, il fallait apprendre, il fallait réfléchir par soi-même, il fallait pas croire les discours tout faits. Et puis, la part de hasard, je devais devenir instite en maternelle parce que je trouvais que c'était dans les premiers jours qu'on pouvait, enfin les premiers jours, les premières années, on va dire, qu'on pouvait vraiment aider les personnes à se former, à s'éduquer, à s'ouvrir au monde. Et puis, le hasard, j'ai rencontré une ONG sur mon chemin. Voilà, on me l'a fait découvrir et j'y suis restée parce que j'ai découvert toutes les problématiques qui étaient l'éducation, non pas en France, mais dans des pays moins développés et un attachement profond pour des communautés, des populations qui sont malheureusement exclues d'éducation, entre autres, hein, et pour qui il est très, très important de se mobiliser et de se battre. Et effectivement, ça, du coup, c'est très énergivore. Mais quand on met la main dedans, généralement, on a beaucoup de mal à s'arrêter parce qu'on sait que derrière, on laisse tomber beaucoup, beaucoup de gens qui, mine de rien, comptent sur nous. Et du coup, on n'a pas trop envie de s'arrêter.
Ouais, j'imagine, mais du coup, c'est quand même pas du tout le même public, quoi. Entre Instit où ton public potentiellement, ça aurait été des enfants. Là, t'as un public qui est quand même radicalement différent. Enfin, c'est toujours, il y a un gap qui est assez énorme.
Il y a un gap énorme. Oui, c'est pas du tout le même travail, en fait. Je suis à des années-lumière de l'éducation enseignement. Je n'apprends pas grand-chose à quiconque. Mais par contre, j'ai la chance, parce que je considère que c'est une vraie chance, en fait, de pouvoir mettre en lumière des sujets dont on ne parle pas assez, des populations dont on ne parle pas assez, des problématiques que ces gens rencontrent, dont on ne parle pas assez, dont on n'a pas assez conscience. Et j'ai le bonheur de me lever chaque matin en sachant pourquoi je me mobilise et pourquoi je vais travailler. Et ça, franchement, c'est inestimable. Et je sais qu'au bout du compte, parce que j'ai eu évidemment à me déplacer tout au long de ma carrière. Je suis allée dans des pays moins avancés. J'ai rencontré beaucoup de populations. Et tous les jours, en fait, je pense à ces gens, en fait. Alors, ça ne paraît pas grand-chose. Hein. Je ne vais peut-être pas changer le monde, malheureusement. Mais un programme en plus, un projet en plus, une classe que l'on ouvre, des femmes à qui l'on permet d'apprendre à lire, à écrire, qui vont pouvoir monter leur entreprise, qui vont pouvoir du coup avoir un peu d'argent pour élever leur enfant, qui vont pouvoir les envoyer à l'école. Et mine de rien, ça change une vie, et une vie plus une vie, c'est super en fait.
Ah oui, parce que moi je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Moi je pense que tu participes justement à changer le monde, bien au contraire.
Alors je participe. Maintenant, est-ce que j'y arrive? C'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, oui, notre but c'est de changer le monde et c'est de faire en sorte que tout le monde ait droit à l'éducation. Mais c'est un long chantier. On en est bien conscient. Ce n'est pas facile et il y a énormément de choses à faire. Et malheureusement, je ne suis pas vraiment sûre que pour l'instant on soit sur la bonne voie. Donc
D'accord. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Qu'est-ce qui me fait dire ça? Déjà les premiers arguments que j'évoquais il y a quelques minutes, hein, le fait que on avait atteint un certain nombre de progrès et que malheureusement en 2020 on a eu la pandémie de la COVID-19 qui a eu des impacts catastrophiques sur l'éducation en général, sur les droits sociaux, sur la capacité de population vraiment, enfin, sur des dangers très réels, en fait. Ça a fait augmenter, bien sûr, les maladies, bien sûr, n'en parlons pas, le manque d'accès aux soins. Ça a fait se multiplier les mariages précoces, les violences. Et les populations avec qui je travaille sont des populations qui sont déjà de prime abord largement confrontées à ce type de problème. Manque d'accès aux soins, manque d'accès à l'eau, manque d'accès à la nourriture, violence verbale, physique, sexuelle, mariage précoce, grossesse précoce. Et cette pandémie a fait exploser tout cela et a mis à mal tous les systèmes qu'on avait mis en place auparavant pour accompagner ces populations et pour prévenir ces risques.
Ah ouais, okay.
Du coup, on s'est retrouvé dans une situation extrêmement dramatique, avec voilà, des explosions de mariages précoces, des explosions de grossesses précoces. Et au final, aujourd'hui, on a du mal à remobiliser, à resensibiliser à toutes ces choses, déjà par manque de budget, comme je le disais. L'éducation, ça reste un parent pauvre. Suite à la COVID-19, les budgets ont été réalloués à d'autres secteurs jugés davantage prioritaires. Et à cette crise dramatique se sont ajoutées aujourd'hui énormément de crises. La situation du monde, elle est quand même assez complexe. Beaucoup de conflits, beaucoup d'attaques contre les hôpitaux, contre les écoles. La famine, je n'en parle même pas, qui explose littéralement et dont on ne parle malheureusement pas assez. Bref, toutes les crises se multiplient partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'éducation est en train de perdre un peu de terrain. Ouais. Et il faut en être conscient et il faut se remobiliser pour que ça redevienne une priorité. C'est essentiel.
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'imagine, on en parlait un petit peu en off avant de commencer notre échange, qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi le premier, hein, là j'apprends des choses, hein, on n'est pas forcément au courant de cette situation dont tu parles, qui a l'air d'être quand même assez anxiogène, hein, en tout cas moi je le ressens comme ça. Et donc, du coup, ça me fait penser que tu dois avoir une grosse pression aussi quelque part sur les épaules.
Ouais, une grosse pression. La pression, elle vient du fait que j'attache beaucoup d'importance à ces populations, à ces femmes, à ces filles, à ces jeunes enfants qui sont laissés de côté. Enfin, concrètement, après, je vis de manière très chanceuse à Paris. Je suis pas confrontée, je travaille pas dans l'humanitaire, en fait. Je suis pas moi-même confrontée à ces manques, à ces accès. Mais je connais les populations qui y sont confrontées, qui, tous les jours, ne savent pas comment ils vont pouvoir nourrir leurs trois filles, leurs trois garçons, et ces familles qui vont être confrontées aux terribles choses de se dire, on est 6 enfants, on n'arrivera pas à les nourrir, on n'a pas les moyens, parce que envoyer des enfants à l'école, ça coûte extrêmement cher, ça coûte très très cher. Enfin, ça peut paraître des petites sommes pour nous qui sommes ici en France, etc. Mais dans beaucoup de pays, ça représente des frais de scolarité. Il faut un uniforme qu'il faut payer soi-même. Il y a des frais de scolarité. Parfois, il faut payer l'enseignant. C'est une somme d'argent considérable que les familles ne vont pas pouvoir donner à leurs enfants. C'est pas qu'ils ne veulent pas, hein, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, tout le monde est conscient de l'importance de l'éducation. Mais entre le fait de vouloir éduquer son enfant et le fait de pouvoir l'éduquer financièrement, ça ne marche pas. Il y a aussi le trajet. Aller de village à l'école la plus proche, c'est souvent sur des kilomètres et des kilomètres. Alors, envoyer le garçon, bon, ça passe encore. Mais la jeune fille, elle ne va pas traverser 5 kilomètres matin, midi pour aller à l'école. C'est beaucoup trop dangereux. Donc, on ne va pas pouvoir la mettre à l'école. Et donc, cette jeune fille, elle va être exclue de l'éducation. Donc, on parlait de pression. La pression, elle est parce que j'ai conscience des dangers pour toutes ces personnes et que j'estime... de par ma vie et de par mes engagements personnels et professionnels, que ce n'est pas normal. En fait, le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. Il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits humains, il est inscrit dans la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est un droit fondamental, mais aujourd'hui, c'est un droit qui reste largement bafoué. Et ça, c'est totalement inadmissible. Mais comme il est inadmissible que des enfants meurent de faim, et comme il est inadmissible que des enfants vivent dans la rue, ou même des adultes, voilà. Enfin, c'est un droit fondamental qui n'est pas respecté, comme beaucoup d'autres. Mais pour le coup, on a les moyens, justement, de faire changer cela. À partir du moment où un engagement est pris, à partir du moment où les États s'engagent à respecter les droits, ils doivent le faire. Ils ont une obligation de résultat. Il faut juste leur rappeler.
Ce qui veut dire que toi, les décideurs publics que tu rencontres, c'est qui en fait précisément ?
Alors moi, précisément, étant en France, je vais me concentrer sur les interlocuteurs français qui s'occupent en France de l'aide au développement, de l'aide à l'éducation à l'international. Et donc, principalement, ce sont les acteurs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour universités, clairement. C'est aussi la Banque de Développement française, l'Agence française de développement. Mais avec mes collègues qui sont dans les autres pays, puisque Action Éducation est une ONG qui travaille, comme je l'ai dit, dans près d'une vingtaine de pays. Donc, il y a beaucoup d'équipes avec nous. On est plus de 600 salariés dans le monde. Ah ouais. Et donc, je travaille avec ces gens pour qu'eux-mêmes mènent des actions de plaidoyer dans chacun de leurs pays.
D'accord, ok. J'aimerais qu'on revienne sur action de plaidoyer. Tu l'as un peu défini au début, mais concrètement, est-ce que tu peux nous donner, un exemple ? Par exemple, demain, tu as été, qu'on comprenne vraiment par l'exemple.
Très concrètement, je vous parlais de la France. France, elle alloue tous les ans ou tous les deux ans, enfin au rythme où elle le veut, en fait, elle alloue une certaine somme d'argent à l'aide au développement. Normalement, c'est quelque chose qui est fixé, c'est à 0,7% de son PIB qu'elle doit allouer à l'aide au développement. C'est un engagement qu'elle a pris en 1956 comme beaucoup de pays donateurs. Bon. Il se trouve que la France n'a pour l'instant jamais respecté ses 0,7% du PIB, comme énormément de pays. Là n'est pas vraiment la question, mais du coup, chaque année, il faut se mobiliser, aller rencontrer des députés, aller rencontrer des directeurs de cabinet, aller contacter des différents rédacteurs qui travaillent dans les ministères pour leur dire, vous allez allouer tant d'argent à l'aide au développement, nous voudrions qu'il y en ait tant qui partent à l'éducation. Quel type d'éducation ? L'éducation de base. Pour faire quoi exactement sur le terrain ? Quel pays vous devez cibler en priorité ? Parce qu'on sait que c'est là-bas que sont tous les besoins. Évidemment, parfois, il y a d'autres intérêts que l'aide pure et dure. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts… Du coup, le ministère prend ses décisions en fonction de tous les conseils, si l'on peut dire, de la société civile, de ses propres arguments. Et donc, c'est à nous, chargés de plaidoyer, d'aller voir toutes ces personnes et d'essayer de les convaincre de ce que nous, on estime nécessaire pour l'éducation en l'occurrence, mais vous avez des chargés de plaidoyer en santé, en alimentation, en accès à l'eau, il y en a pour tous les domaines et le tout étant de parler le plus clairement possible et le plus justement possible pour faire en sorte que le maximum d'argent soit alloué à l'éducation.
Mais du coup, moi, j'y vois une forme de complexité. Je me dis comment convaincre des gens qui ne sont déjà pas convaincus ?
Ou alors… C'est peut-être un peu sévère comme jugement. On ne peut pas dire qu'ils ne soient pas convaincus. Non, on ne va pas aller jusque-là. Disons qu'ils ne sont pas totalement convaincus. Il y a une part quand même d'eux qui sont bien au fait qu'effectivement, il y a une aide au développement qui est nécessaire. Ils reconnaissent l'importance de l'éducation. Ça, c'est quelque chose d'assez basique, en fait. Tout le monde va vous reconnaître l'importance de l'éducation. Demandez à n'importe qui, bien sûr, l'éducation, c'est super important. Mais quand il s'agit de mettre les fonds derrière…
Oui, voilà.
Là, les gens sont moins convaincus. Mais dans le discours, on a toujours, tout le monde est toujours d'accord, l'éducation, c'est extrêmement important. Bien sûr, c'est une priorité. Mais après, il y a des arguments, il y a de démontrer, comme je viens de le faire, quelle est la réalité sur le terrain. Qu'est-ce qu'il advient à un enfant qui ne va pas à l'école, qui n'est pas scolarisé ? Quelles sont les conséquences immédiates ? Quand on expose ce type de situation, une jeune fille, ça veut dire mariage précoce, ça peut être mariée à 9 ans, à 10 ans, sans éducation. Ça veut dire qu'elle va rester chez elle, enfermée chez elle, qu'elle pourra jamais travailler parce qu'elle n'aura aucune compétence. Elle va être au service de son foyer, de sa famille, mais sans possibilité de lire, d'écrire. Le jour où son mari décède, qu'est-ce qu'il advient de cette femme ? Comment va-t-elle s'occuper de ses enfants ? Enfin, ça a des conséquences très concrètes. Et une fois qu'on expose l'ensemble de ces situations, généralement, dans la plupart des cas, on arrive à convaincre de l'importance de l'éducation, de base. Et dans ce cas-là, les fonds arrivent. Au bon pays, généralement. Enfin, on est quand même en relation avec des États. Je parle pour la France, mais les pays donateurs de l'aide au développement sont des démocraties, la plupart du temps, qui ont une bonne conscience des droits fondamentaux, des engagements qui sont pris, du respect de ces engagements, et qui font tout de même un bon travail. On n'est pas en dialogue avec des dictatures qui.
C'est pas un dialogue de sourds.
Plutôt sur l'éducation ou sur les droits essentiels. Dans ces cas-là, effectivement, c'est nettement plus complexe.
C'est ça. Et là, c'est le premier barrage où la personne que tu rencontres, c'est vraiment la personne qui va décider de débloquer les fonds ou après, il y a encore une décision ? Non, pas vraiment.
Il y a beaucoup de décisions, en fait. Nous, rencontre, je dis nous parce qu'on le fait rarement solo, on est souvent, en fait, plusieurs chargés de plaidoyer qui travaillons sur le même secteur, qui allons à la rencontre des rédacteurs qui sont dans les ministères, des directeurs, des chargés d'eux. Il y a énormément de monde qui travaille dans un ministère, en fait. Et pour atteindre le sommet du panier, effectivement, ça peut prendre des années, ça peut voir ne pas advenir, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous rencontrer. Il y a quand même un travail qui est fait, hein, enfin, de rapports, de conseils à l'intérieur du ministère. Et non, on ne rencontre pas forcément, par exemple, l'actuel ministre des Affaires étrangères pour aller lui dire « n'oubliez pas l'éducation quand vous allouerez des fonds ». Non, c'est beaucoup plus complexe, c'est tout un ensemble d'organes, de décisions. Il n'y a pas que le ministère qui décide. Effectivement, il y a aussi l'Élysée, il y a aussi des banques de développement, il y a des agences de professionnels. Donc, c'est très vaste comme système.
C'est énorme, c'est énorme. Ce qui veut dire que cette même personne que tu as été voir pour donc, du coup la convaincre, tu vas être amené à la revoir régulièrement pour continuer un peu. Ouais, c'est ça.
Ah oui, le plaidoyer n'est pas on rencontre quelqu'un et on obtient un résultat et ça y est, c'est fini. Voilà. Tous les mois, tous les ans, c'est un process en cours. Il faut toujours sensibiliser, retourner voir les gens, rappeler les conditions. Les conditions, elles changent. L'année dernière, depuis plusieurs années, mais surtout l'année dernière, on a mené un gros plaidoyer sur l'éducation en situation de crise, d'urgence, parce que jusqu'à présent, on a tous entendu parler de l'aide humanitaire, bien sûr. Il y a une catastrophe, il y a une guerre. On envoie des secours, on envoie des kits d'alimentation, on envoie des médicaments, des choses extrêmement pour répondre aux besoins vitaux des gens. Et depuis plusieurs années, les conflits se multiplient partout dans le monde. Et la première chose qui disparaît dans un conflit, c'est aussi l'accès à l'éducation. Et il y a quelques années, l'éducation, c'était aussi pratiquement la dernière des choses qui revenait dans une situation d'urgence ou de crise. Et on s'est très rapidement rendu compte que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, en fait, des enfants qui, du jour au lendemain, arrêtent d'aller à l'école, des adolescents, des jeunes qui arrêtent leurs études pour cause de conflits et de violences. Si le conflit dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans, ces enfants, ils retourneront jamais à l'école. Ces jeunes, ils ont une vie, pour ainsi dire, de perdue, dans le sens où ils n'auront aucune formation à la sortie. Et puis, l'éducation, c'est pas seulement apprendre des connaissances, c'est pas seulement apprendre des compétences, c'est aussi un repère. Je vais vous donner l'exemple, encore revenir à la Covid-19. En France, quand tout s'est arrêté, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est il faut réouvrir les écoles d'une manière ou d'une autre, mais il faut que les enfants retournent voir leurs enseignants. Parce qu'il y avait un système d'apprentissage des connaissances, bien sûr, mais le fond du problème, c'était pas les connaissances. C'était qu'il fallait apporter à ces enfants qui étaient complètement déstabilisés, bouleversés par ce qui se passait, il fallait leur apporter un repère, la normalité. Se dire que oui, on continue d'aller à l'école, que tous les matins, on va se lever, qu'il va y avoir un prof, qu'on peut parler à ce prof, qu'on peut envisager un avenir, que le monde n'est pas en train de s'arrêter. Vous êtes aujourd'hui en situation de guerre ou de conflit, tout s'arrête du jour au lendemain, il n'y a plus de normalité, vous n'avez plus d'abri, vous n'avez plus de famille ou potentiellement, elle a été décimée par les conflits. Vous n'avez plus de logement, vous ne voyez plus vos amis. Et le traumatisme, il est absolument gigantesque. Et l'une des seules réponses face à ce traumatisme, c'est l'éducation. C'est le soutien psychosocial qui est apporté par l'éducation. Et donc, aujourd'hui, on mène un énorme plaidoyer pour que cette éducation en situation d'urgence, elle arrive le plus vite possible, voire si possible, le jour 1 de la crise, on pense déjà à comment on va remettre en place l'éducation. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de délais en fait et qu'on a des générations entières qui sont perdues, qui sont sacrifiées à cause de ces interruptions d'éducation. Donc aujourd'hui, l'un des grands plaidoyers qu'on a mené et qui commence à prendre corps en France, c'est véritablement l'éducation en situation de crise, d'urgence, convaincre qu'il faut allouer davantage de fonds à ce secteur qui est très très pauvre aujourd'hui en France et qui malheureusement va être amené à grossir de plus en plus parce que l'éducation en situation de crise, c'est aussi en situation de crise de catastrophe naturelle et on sait que les catastrophes naturelles vont se multiplier. Donc c'est une urgence absolue et ça nous prend plusieurs années. Il suffit pas d'aller voir quelqu'un et de lui raconter ça en une demi-heure dans son bureau. Non, ça prend des années et des années. Et preuve que ça marche, la France a alloué en fin d'année dernière 40 millions d'euros pour l'éducation en situation d'urgence, à un fonds qui est spécialisé et qui va mettre en œuvre des projets d'urgence. Et c'est la première fois dans l'histoire.
Ah, c'est chouette. Est-ce que tu as l'impression que 40 millions, c'est une belle enveloppe pour ça?
Oui, c'est une belle enveloppe quand on part de zéro ou de quelques millions. C'est une très belle enveloppe. Est-ce qu'il faudra plus? Oui, bien sûr. Oui. Mais chaque chose en son temps. chaque chose en son temps. Déjà, il y a un premier pas, il y a de l'argent, il y a des fonds, il y a des moyens. Et puis, il n'y a pas que cette enveloppe-là, il va y avoir d'autres effets d'annonce, il va y avoir d'autres projets mis en place. C'est un début, et tant mieux, tant mieux. Il faut que les choses se mettent en place. Et on n'obtient pas tout du jour au lendemain. Il ne faut pas se leurrer, c'est un travail de longue haleine. Et l'important, c'est de voir que la sensibilisation progresse et que l'éducation, que ce soit en situation d'urgence ou pas, elle soit dans les radars, elle soit vue comme une priorité. Au-delà d'être dans les discours, parce que ça, malheureusement, on l'a souvent eu, dans les faits, dans les actes, il y a une réelle prise de conscience, il faut que ça se renforce.
Et j'imagine que justement, pour que ce soit acté tel que c'est le cas maintenant en France, tu n'es pas la seule à plaidoyer dans ce sens-là. Vous devez être, je sais pas, vous êtes combien, tu as une idée de combien de personnes plaidant dans ce sens-là, non,
c'est vrai ? Après, des chargés de plaidoyer, vous en avez aujourd'hui dans toutes les ONG, dans toutes les associations, hein, parce que, enfin, dans toutes. Les plus importantes et celles qui ont les moyens d'y allouer un personnel dédié, parce qu'effectivement, de prime abord, dans une ONG, on pense plutôt voilà, à des gens qui sont sur le terrain, qui des chargés de programme, des logisticiens, des gestionnaires. Bon, il y a toute une mécanique des propres ONG qui a toujours existé. C'est vrai qu'en France, les chargés de plaidoyer, c'est un peu plus récent. À la base, c'est très anglo-saxon comme méthode.
Ok.
Ça, depuis une quinzaine d'années, ça se répand de plus en plus. Donc, les grosses ONG aujourd'hui ont des chargés, des responsables de plaidoyer, voire même des départements entiers de plaidoyer. Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que faire des projets sur le terrain, c'est très bien. Mais les projets sont toujours, les programmes sont toujours dimensionnés par un budget, par une équipe. Ils sont limités dans le temps. Donc, vous pouvez obtenir de très bons résultats, je ne sais pas moi, dans un pays, je ne sais pas, en Inde, en Asie du Sud-Est, etc. Mais si vous ne parlez pas de ce que vous faites sur le terrain, si vous n'allez pas convaincre ceux qui ont l'argent, donc les bailleurs, les agences de développement, les banques de développement, les entreprises, si vous n'allez pas raconter ce que vous avez fait sur le terrain, bah concrètement, vous n'avez pas les fonds pour mener d'autres projets. Donc, de plus en plus, on s'est rendu compte qu'avoir des gens en fait, qui sont chargés d'aller plaider la cause, en fait, de ces programmes sur le terrain et de montrer les effets bénéfices de ces programmes sur le terrain, ça s'est énormément répandu. Aujourd'hui, on sait qu'en fait, sans plaidoyer, on ne peut pas continuer. On a besoin des agents de plaidoyer pour véritablement montrer la réussite, les réussites que l'on obtient sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, on a des espèces de coalitions de plaidoyer qui se forment en France. On a par exemple la coalition éducation, voilà, c'est un ensemble de responsables, de plaidoyer, de chargés de programme terrain qui vont travailler sur le plaidoyer de l'éducation proprement parlée. Vous avez un autre groupe enfance qui va travailler le plaidoyer pour une meilleure prise en compte des droits de l'enfant en France et dans la politique de coopération internationale de la France. Donc, vous avez ce genre de coalition qui se multiplie en fait pour porter plus haut, plus fort les messages en direction des décideurs publics.
Mais ça, c'est plutôt encourageant. Et donc, du coup, tu n'arrives pas à te rendre compte de ça représente combien de personnes ? Je ne sais pas, une centaine ? Non, tu sais pas.
C'est impossible à dire. Il faudrait avoir une connaissance de toutes les ONG en France. Okay. Malheureusement, non, je n'ai pas une telle cartographie dans la tête.
Et donc, on peut se laisser supposer que c'est grâce à vos actions que, justement, là, pour le coup, on a une enveloppe de 40 millions en France.
Là, pour le coup, oui, il y a un réel travail. Pour le coup, je vous parlais de la coalition éducation et c'est véritablement un plaidoyer qu'a porté la coalition éducation depuis des années et qui a porté ses fruits. Après, moult rendez-vous, notes d'information, appels, conférences, webinaires. Enfin, je veux dire, c'est un travail de longue haleine, mais qui fait ses fruits. Je vais vous donner l'exemple un peu, c'est un des exemples qu'on n'aime pas trop quand on fait du plaidoyer, mais pourtant c'est assez concret pour les gens. Vous avez tous entendu parler des lobbyistes qui travaillent eux pour les entreprises. Ouais. On connaît, à chaque fois, les entreprises les plus fortunées mettent en place des systèmes comme ça de gens qui vont convaincre tel homme politique avec montrer tous les avantages d'utiliser tel matériel plutôt que tel matériel. Ouais. Bon, c'est la même chose, sauf que nous, En tant que plaidoyer, évidemment, on n'a pas d'intérêt financier. Ce qui nous intéresse, ce sont les causes et c'est l'éducation, l'accès à l'eau, l'accès à la santé. C'est exactement le même système. C'est juste pas tout à fait ni les mêmes moyens derrière, ni la même finalité.
Ouais, c'est ça. Tu disais que vous travaillez sur une vingtaine de pays avec l'ONG, hein, c'est ça ?
Oui, vingtaine de pays, tout à fait. Environ 80 projets un peu partout dans le monde.
Est-ce que ça veut dire que vous avez identifié 20 pays qui semblaient nécessaires justement ou pour apporter l'éducation? Parce que du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus quand même de pays qui n'ont pas accès à l'éducation. On est bien d'accord, hein?
Alors, il y a plusieurs choses en fait. Alors malheureusement, des pays où il y a des difficultés liées à l'éducation, il y en a beaucoup plus que 20, ça c'est sûr. Ouais. Malheureusement, il y a une réalité qui est que malheureusement, nous ne pouvons pas être partout. Pour plusieurs raisons, raisons financières, économiques, hein, on n'a pas non plus les moyens de sauver le monde. Comme je le disais tout à l'heure, ce serait très ambitieux, mais heureusement, il y a plusieurs ONG qui se répartissent un peu les champs d'action, les lieux d'action. Après, il y a une question de culture, de manière de travailler. Il y a ce qu'on appelle les situations d'urgence humanitaire, où là, effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes ONG parce que c'est pas les mêmes méthodes de travail, c'est pas les mêmes cadres, c'est pas les mêmes formations. Donc, on ne peut pas aller de partout. Puis, il y a des États qui n'acceptent pas véritablement l'appui des ONG pour X raisons. Donc, effectivement, nous, quand on intervient dans un pays, déjà, on part du principe qu'on travaille, nous, avec les autorités du pays. On travaille jamais contre les autorités parce que l'éducation, ça reste un domaine régalien. En fait, chaque État réfléchit à sa politique éducative et met en place des solutions éducatives pour sa population. Et ça n'aurait pas de sens, du coup, de travailler contre les autorités. On préfère travailler avec elles pour avoir un meilleur impact et puis pour prendre en compte tout ce qui est culture locale, tradition, etc. Il est hors de question d'aller à l'encontre des populations et de leur histoire. Ouais. Et puis, après, c'est aussi en fonction de l'analyse, effectivement, que l'on fait dans chaque pays. Et au-delà de chaque pays, ce qui est très ambitieux, en fait, surtout de chaque région, parce qu'on va travailler au niveau des communes, on travaille vraiment avec des populations les plus vulnérables possibles. Donc, c'est des gens exclus qui vivent dans des zones extrêmement reculées. Donc, on va travailler avec des chefs de village, des chefs de commune, des préfectures quand on va jusqu'à ce niveau-là. Mais du coup, c'est un travail de proximité pour analyser les besoins, pour travailler avec ces populations et pour souvent les amener elles-mêmes à définir ce dont elles ont besoin. Parce qu'on part du principe que c'est pas nous, dans nos petits bureaux parisiens, qui allons décider de « Ah bah vous voyez, dans ce village-là, ils vont pas à l'école, très schématiquement. Ah bah c'est pour telle et telle et telle raison, donc on va aller construire une école et tout le monde va y aller. » Alors ça, c'était un peu le développement pendant quelques années, ça ressemblait beaucoup à ça. Hein. On nous disait « Vous allez construire une école là-bas parce qu'il n'y en a pas. » vous allez ouvrir une classe, amener du matériel, voilà. Ça se faisait il y a très longtemps, puis on s'est vite rendu compte que c'est pas parce qu'on construit une école que la population y va, très logiquement, parce que l'école, elle peut être trop loin, elle n'est pas adaptée, elle répond pas aux besoins de la population, ils comprennent pas trop ce que c'est que cet endroit où il faut aller à des horaires précis, etc. Donc, on s'est rendu compte que c'est vraiment pas la bonne solution et qu'on part toujours du ce dont les populations ont besoin pour essayer au mieux de les amener vers l'éducation qui correspond à leurs besoins. Est-ce que c'est une école à côté de chez eux? Est-ce que c'est pas une école à côté de chez eux? Est-ce que c'est de la formation dans un centre professionnel? Parce que c'est une population qui est vouée plus à travailler, à se former à des métiers d'agriculteur, etc. Donc, vraiment partir des besoins de la population et ensuite développer avec eux des solutions liées à l'éducation.
Ouais, donc j'imagine vraiment que je suis en train d'imaginer que c'est une espèce de fil rouge. Ça doit être très très long, quoi, parce que déjà il faut justement aller déterminer leurs besoins. Donc déjà rien que ça, j'imagine que ça va prendre du temps. Une fois que ça c'est identifié, il faut identifier aussi un budget aussi, j'imagine. À partir du moment où tu as identifié que ici il fallait que vous travailliez, par exemple, j'imagine qu'il y a des années en fait qui s'écoulent, quoi. Ça se fait pas comme ça en quelques mois.
Alors, des années, tout dépend de l'ambition du programme. Après, on a quand même, à Action Éducation, on a plus de 40 ans d'expérience et on travaille depuis toujours, en fait, en lien très étroit avec les communautés, avec les préfectures, les départements, les villages. Donc, il y a des liens qui se sont tissés. Donc, on intervient quand même dans pas mal de régions. On est déjà intervenu ou juste à côté. Donc, on a déjà une bonne connaissance des populations que l'on accompagne et on a les moyens de mettre en place tout de même des projets et des programmes qui vont assez rapidement. Et heureusement, parce que si à chaque fois, on mettait 10 ans à créer quelque chose, concrètement, on ne serait pas vraiment prêt de s'en sortir. Donc, il faut aller un peu plus vite. Mais effectivement, on a des programmes aussi qu'on est d'ailleurs en train de développer, qui sont des programmes de longue durée qui sont indispensables parce que voilà, au bout d'un moment, le développement, on peut pas l'avoir en un claquement de doigts, ça se décrète pas, et c'est pas parce que on crée une école quelque part et on met des bons enseignants et on fait en sorte que les enfants aillent à l'école que d'un coup tous les problèmes vont se régler. Donc on a mis en place un type de programme qui dure 10 ans, et effectivement on a toute une année complète qui est dédiée à la compréhension des problèmes locaux, des échanges avec la population, la structuration en fait de cette espèce de comité en fait issu de la population qui va définir avec nous les besoins et avec qui on va travailler pour voir comment ils vont eux-mêmes s'emparer des solutions et quel type de solutions ils ont envie de voir advenir et quel type d'objectifs ils ont. Et effectivement, ce type de programme, nous à Action Éducation, on pense que ça va être amené à se multiplier parce que on peut pas résoudre tant de problèmes juste en claquant des doigts. Il faut véritablement prendre le temps d'être avec les populations et de construire avec elles. Parce que sinon, en fait, et c'est ce qui s'est aussi passé pendant des années dans le monde du développement, les ONG arrivent, elles construisent ce qu'elles ont à construire, elles font un projet qui va durer 2 ans, 3 ans, et puis elles partent. Elles partent parce qu'il y a d'autres besoins ailleurs, il y a toujours d'autres besoins ailleurs. Et le jour où ces ONG partent, si le travail n'est pas correctement fait, tout s'arrête.
Oui.
S'arrête. L'école, elle n'est plus financée. Je vous donne l'exemple de l'école, mais je pourrais donner quantité d'autres exemples. Dans d'autres secteurs, ça marche aussi. Hein. Ouais. La population qui allait dans ce centre de formation, les formateurs étaient payés par l'ONG. Donc, s'il n'y a plus d'ONG derrière, les formateurs ne sont plus payés. C'est à la commune que revient d'un coup la nécessité de trouver des fonds pour financer le salaire des formateurs, pour financer le matériel. Et souvent, ils ont d'autres problèmes. Donc, ils vont laisser tomber, en fait. Et on s'est retrouvés comme ça avec des... Je dis « on », ça, c'est pas proprement à nous, ONG, Action Éducation, mais à quantité d'ONG de mettre en œuvre des choses et puis qu'elles soient abandonnées parce que l'ONG quitte le pays. Et donc, dans ce cas-là, en gros, c'est 3 ans de perdu et beaucoup d'argent de gaspillé aussi. Donc, vaut mieux faire les choses lentement, s'assurer des besoins, s'assurer de ce qu'on veut mettre en place avec les populations. Et j'insiste sur le « avec » parce que c'est absolument fondamental. Vous ne pouvez pas imposer le développement à quelqu'un, en fait. Vous ne pouvez pas savoir mieux que lui ce dont il a besoin. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine avec les populations où on les accompagne dans leur cheminement, dans leur réflexion, dans leur pensée, dans les manières de faire. Peut-être que ce ne sera pas la bonne du premier coup, et ce n'est pas grave parce que c'est aussi dans l'erreur que l'on apprend. Et c'est ensemble qu'on construit quelque chose. Et ça, véritablement, en ce moment, on y croit beaucoup et on va essayer de le mettre en place et de le développer.
D'accord. Et est-ce que tu arrives à avoir un feedback sur des projets qui ont été menés jusqu'au bout? Un feedback, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans après, pour voir justement, tu vois, l'évolution. Oui, tu l'as,
Oui, bien sûr. En 40 ans, heureusement, on a mené de longs programmes, de longs projets, effectivement. Je ne vais pas vous dire qu'on en a tous les jours, mais on en a quand même régulièrement des gens dont la vie a été... Alors, transformer, oui, transformer dans le sens où quand on passe de « je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire » à soudainement « je sais lire, je sais écrire, je sais compter », même de manière assez rudimentaire, je parle pour des adultes qui reprennent des cours d'alphabétisation quand ils ont 40, 50 ans, mais c'est déjà, ça provoque des changements qui sont assez impressionnants. On a des gens qui sont partis de rien, qui ne savaient pas lire, pas écrire et qui ont, en quelques années, non seulement appris à lire, à compter, mais ont créé une petite entreprise. Ils ont une formation un peu en commerce, en marketing, si on peut dire, en gestion. Et ils créent leur propre entreprise. Ils vont faire des épiceries dans des villages. Ils vont construire des garages. Ils vont se mettre en plus au service de leur communauté. C'est-à-dire qu'ils vont répondre à des besoins de l'ensemble de la communauté. C'est pas juste un apport personnel de « ah ben je sais lire, je sais écrire ». Non, en fait, ils vont vraiment se mettre au service du reste de la communauté et sensibiliser le reste de la communauté à « vous voyez ce qu'on peut faire avec de l'éducation, avec de la apprentissage, on peut faire énormément de choses. » Et donc, la reste de la population va être véritablement sensibilisée à ça. Ils sont des exemples, ils sont porteurs d'exemples. Et donc, ça donne envie forcément de faire de l'éducation une priorité. Et donc, vous avez à partir de là même des communes qui vont allouer davantage d'argent à l'éducation parce qu'elles vont, rentrer dans cet engrenage de si on apprend, il y a des conséquences immédiates et positives sur l'ensemble. Ça rayonne en fait, ça rayonne sur l'ensemble de la communauté et du village.
Oui, ça pour moi, ça vaut de l'or en fait, tu vois, d'avoir ces retours et de voir que justement, à partir de l'éducation, comme on le dit tous les deux, que tout part de l'éducation, que ça peut avoir un impact colossal sur l'ensemble peut-être d'une région, d'un pays, d'un département. Enfin, et là, pour le coup, vous le mesurez depuis 40 ans, donc c'est plus des belles paroles en fait, tu vois.
Mais je peux vous donner un exemple très très fort, parce que celui-là, je l'ai vécu en fait. En Inde, on accompagne une population je sais pas si vous êtes au courant, mais en Inde, il y a un système de caste, en fait, entre la population. Donc, il y a, en gros, ceux qui sont le plus bas dans les castes, qui sont les plus exclus, les plus marginalisés, qui n'ont pas d'accès à l'état civil, qui n'ont vraiment rien, mais depuis, sur des décennies et des décennies. Donc, j'ai envie de dire, ça s'ancre même dans les individus. Ce sont des gens qui ne lèvent pas les yeux, qui ne parlent pas beaucoup. Il y a un type de population qu'on appelle des migrants saisonniers, qui, pour des raisons financières de survie, hein, très basiquement, sont obligés de quitter leur village parce qu'ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'emploi, et qui vont trouver du travail dans les grands centres urbains, dans les grandes zones de construction, comme il y a à l'abord des très grandes villes indiennes comme Chennai ou Delhi. Et donc, ces populations partent seules, sans papier d'identité, sans accès à la nourriture, à des aides de quelque sorte que ce soit. Et donc, ils se retrouvent généralement exploités, bien entendu, exposés à la traite humaine et faits esclaves. Pour parler très crûment, ce sont vraiment des populations qui sont exploitées au maximum. Et ces populations emmènent avec eux leurs enfants. Et donc, ces enfants sont automatiquement déscolarisés et ils vivent avec leurs parents dans des espèces de bidonvilles, on va dire, qui sont installés sur les chantiers même de construction. Donc, pour ces enfants, c'est une vie d'errance. Ils sont maltraités, exploités, mis au travail. Ils peuvent tomber dans la drogue, dans la délinquance. Enfin, on peut imaginer ce qu'il y a de pire. Et ces populations, en fait, comme je vous disais, ce ne sont pas des gens qui s'affirment. Ce sont des gens qui sont habitués à être considérés comme inférieurs. Donc, quand ils vous parlent, ils baissent la tête. Ils ne sont pas à l'aise. Ils n'aiment pas parler à des inconnus, etc. Et notre association Action Éducation a créé sur ces chantiers de construction des lieux d'accueil et de prise en charge des jeunes enfants. Eh bien, ces jeunes enfants, je suis allée les rencontrer. C'est un projet qui me tient énormément à cœur depuis des années. Et en fait, vous voyez que ces jeunes enfants, quand ils passent, allez, un an, deux ans, au sein de ces lieux d'accueil, je pourrais appeler ça des écoles, mais c'est plus que des écoles parce qu'il y a accès aux soins, il y a accès à la nourriture, il y a du soutien psychosocial, il y a des jeux, il y a beaucoup de choses. Eh bien, ces enfants, ils vous sourient. Ils vous sourient et ils acceptent même de vous parler. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est énorme. En fait, une instit qui est là, qui est formée, pose une question et ils vont lever la main. Des petites filles qui vont lever la main et qui vont dire « moi, je connais la réponse et moi, je peux parler ». Mais ça, chez ce type de population, vous ne le voyez jamais, en fait. Et on voit à quel point l'éducation chez ces jeunes enfants arrive à défaire des comportements qui étaient totalement internes et qui étaient vraiment dans leur cerveau, en fait. Non, j'ose pas parler parce que je fais pas partie de la caste qui a le droit de parler. Ben, aujourd'hui, je peux parler, je peux m'éveiller, je peux sourire, je sais chanter, je sais compter. Et ça change tout. Ça change tout. Vous le voyez dans leurs yeux, en fait.
Oui, ça les libère, en fait. C'est une vraie libération.
C'est une libération, c'est une prise de conscience. Alors après, soyons honnêtes, ça ne veut pas dire que c'est malheureusement, ils vivent dans un système de caste qui va faire qu'ils n'auront pas accès à tous les emplois, qu'ils n'auront pas toutes les opportunités auxquelles normalement ils ont droit. Mais ça change concrètement toute leur vie. Parce qu'ils savent qu'il y a un type d'éducation, qu'il y a autre chose, il y a un espoir derrière, il y a la possibilité de faire autre chose que ce que leurs parents ont fait et d'avoir... Voilà, de savoir lire, de savoir écrire et d'éviter de reproduire en fait ce cercle vicieux parce qu'avant, enfin, concrètement, migrant saisonnier de père en fils et la fille était mariée à un autre migrant. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vicieux en fait. Et aujourd'hui, grâce à ça, on arrive quand même à lutter contre le travail des enfants, en tout cas contre les pires formes de travail des enfants en Inde, ce qui n'est pas rien au vu du nombre massif d'enfants mis au travail dans le monde.
Oui, complètement. Et ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'au tout début, tu avais l'air de dire que il n'y avait pas vraiment bon espoir pour la suite.
Il y a des résultats. Il y a des résultats. On a les techniques. On sait aujourd'hui comment faire en sorte que des enfants aillent à l'école. On a les pistes. On est conscient des causes, des conséquences, des problèmes qui sont liés. On a des solutions. Là où je suis plus pessimiste, c'est effectivement sur les moyens alloués. Mais ça, c'est un fait de notre monde qui est que l'éducation reste un parent pauvre. Et c'était très bien dit dans les premières minutes de l'émission, qui aujourd'hui parle concrètement d'éducation dans le monde. Déjà, l'éducation en France, honnêtement, je ne suis pas tellement sûre qu'on en parle beaucoup, voire pas assez. Mais alors, dans le monde, je vous mets au défi de trouver des gens qui en parlent, qui sont conscients des problèmes qu'il y a dans le monde et qui sont conscients de l'importance de l'éducation. Aujourd'hui encore, nous, ONG, on se retrouve face à des décideurs, à des gens extrêmement importants qui, quand on leur dit, ben là, il y a une crise, il y a un conflit, il faut que l'éducation arrive au même moment pratiquement que l'alimentation, l'accès à l'eau et les soins, qui nous disent « mais non, ça ne sert à rien ».
Ah ouais, ok.
Et on en est encore là. Donc, c'est là où je suis peut-être un peu pessimiste, parce que malheureusement, je sais à quel point il va falloir encore beaucoup sensibiliser. C'est là un peu, voilà, il y a un manque de fond, il y a encore un manque de conscience de l'importance de l'éducation, malheureusement. Là-dessus, il va falloir travailler, mais sur les résultats de l'éducation auprès de populations vulnérables, auprès de n'importe qui, enfin, l'impact, il est évident. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on n'a même plus besoin de le démontrer, c'est sûr.
Oui.
Mais voilà, savoir qu'aujourd'hui, il y a 250 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, ça ne se sait pas, pas assez. Savoir que malheureusement, ce n'est pas parce qu'on va à l'éducation qu'on apprend quelque chose, ça ne se sait pas assez. Aujourd'hui, vous avez 7 enfants sur 10 dans les pays en développement qui ne savent pas lire une simple phrase à l'âge de 10 ans. Pourtant, ils vont à l'école. Mais concrètement, aller à l'école quand il y a 100 enfants dans la classe, 2 livres, pas de cahier, pas de table et un professeur qui est absent un jour sur deux, voire qui n'est pas payé, donc qui ne va plus venir, vous n'apprenez rien, vous perdez du temps. Mais en fait, c'est ce type de discussion sur l'éducation dont on n'entend pas assez parler, mais je peux vous donner l'exemple de la France, voilà, des enfants qui ne sont pas scolarisés en France, quand et où on en parle.
Bah oui, pratiquement bien, bien évidemment.
Mais c'est...
Bah, ça renforce d'autant plus nos actions, nous, depuis 10 ans, tu vois. Enfin, moi, ça me dit, bah, il faut qu'on continue.
Ah oui, ça, je ne peux qu'insister là-dessus. Il faut continuer, il faut même en faire plus, j'ai envie de dire.
Ben ouais, c'est ça. Si ça peut inspirer d'autres personnes, si elles le font chacun à son échelle et avec leurs propres compétences, bien évidemment, ça serait chouette. Tu vois, par exemple, nous, on constate quelque chose en France. Donc maintenant, ça remonte à un peu moins de 10 ans. On a créé un festival qui s'appelle le Festival pour l'École de la Vie à Montpellier, qu'on a dû arrêter pendant les périodes de confinement. Et donc, avant qu'on l'arrête, il y avait quand même 15 000 personnes qui venaient tous les ans à Montpellier. C'était vraiment chouette. C'était un très, très bel événement, un très beau festival. Et donc, on a été les pionniers dans le monde de l'événementiel à créer un événement aussi fédérateur autour de l'éducation, mais pas que l'éducation de ce que trouve dans l'éducation nationale. C'est tous les outils, c'est tous ces professionnels qu'il y a autour. Et là, encore à l'heure d'aujourd'hui, donc il y a un peu moins de 10 ans qui sont écoulés, il faudrait que je regarde, mais si on a allé peut-être 5-6 événements fédérateurs en France, c'est déjà beaucoup. Tu vois, donc moi, même par rapport à ça, je trouve qu'on est en manque, c'est-à-dire qu'il nous faudrait un peu l'équivalent, tu sais, des salons du bien-être. Je sais pas si c'est un domaine qui t'intéresse. Il y a des salons du bien-être partout, en fait, dans tous les départements. Il faudrait des salons de l'éducation dans tous les départements de France, en réalité. Peut-être que ça permettrait justement qu'on en parle davantage.
Mais je rebondis sur un point que tu as mentionné, qui est, tu as dit, l'éducation, c'est pas que l'éducation nationale. Et malheureusement, encore aujourd'hui, je trouve que le sujet qui est abordé en France, c'est l'éducation nationale au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on pense les enseignants, l'école. Or, aujourd'hui, depuis toujours, en fait, l'éducation, c'est nettement plus large que ça. C'est tous les acteurs éducatifs. C'est, pour donner l'exemple, c'est des bibliothécaires, c'est tous les centres éducatifs au sens large du terme, les centres d'activité culturelle. C'est énormément d'acteurs et en premier lieu, les parents, les communautés, même les enfants sont des acteurs de cette communauté éducative. Et aujourd'hui, tout ça, on n'en parle pas assez. Il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez de débats. Et quand on a tendance à rajouter, surtout en France, sur le dos des enseignants, ils ont à faire ci, ils ont à faire ça, ils ont à faire ça. Malheureusement, ce ne sont pas que les seuls acteurs et seuls, ils ne peuvent rien faire. Enfin, le lien entre l'école et la famille est extrêmement important. C'est la clé de beaucoup de soucis et malheureusement, il n'est pas du tout au cœur des échanges en ce moment, en fait.
Non, pas du tout, mais je crois qu'il ne l'a jamais été. Hein. Si on dit que ça fait à peu près un siècle que l'école existe en France, en fait, ça n'a jamais vraiment été le cas. Après, il y a d'autres pays où ça l'est un peu plus, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux. Mais oui, non, pour nous, ça... Et au contraire, là, vraiment, avec les nouvelles normes de sécurité, avec ce qui s'est passé, c'est encore pire, quoi. Je trouve qu'il n'y a vraiment plus du tout de contact et de communication entre les enseignants et les parents, par exemple.
Oui, il n'y en a pratiquement aucun. C'est réduit à peu de chagrin. Une réunion par an où on laisse les parents rentrer dans l'école. Et on voit bien que la démarche, c'est on en trouve un peu la porte pour que les parents rentrent. Alors que normalement, dans le fait, ça devrait être un travail de coéducation, en fait. Autant les parents que les enseignants avec l'enfant, pas on décide tout pour l'enfant, pour arriver véritablement à des résultats très concrets et tangibles. Et malheureusement, effectivement, on n'y est pas.
Non, c'est clair. Alors après, moi, je suis plutôt quelqu'un de positif et d'optimiste. Et j'ai cette chance, tu vois, d'être en contact justement de manière transversale avec justement des ONG, avec des gens du ministère, avec des gens qui sont tout autour de l'éducation nationale. Et moi, j'ai vraiment le sentiment quand même qu'on avance quelque part dans une bonne direction. Mais comme Donc, je prends l'exemple vraiment de la France. Ouais. Dès qu'il faut changer les choses, ça nous met 15, 20 ans, voire beaucoup plus, quoi. Et donc, c'est quasiment pas perceptible, tu vois, tout ce qui se passe. Mais il y a tellement d'enseignants qui essayent de, bah, tu vois ce que je veux dire?
Ah non, mais alors l'hommage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot en fait, adressé à chaque enseignant en fait, qui seul de son côté a des idées, est créatif, développe quantité d'outils, de techniques. Ah non, mais il faut leur tirer, franchement, il faut leur tirer notre chapeau parce qu'ils réalisent un travail absolument phénoménal. Enfin, avec notre association, j'ai travaillé, avec Action Éducation, j'ai travaillé pendant quelques années à Villiers-le-Bel, dans une école où on essayait justement de sensibiliser les enfants à l'éducation aux médias. Et j'ai vu des enseignants à l'œuvre développer des techniques, des compétences. Voilà. Oui. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de chaque individu, de chaque personne et de sa capacité à mobiliser ses collègues, l'équipe pédagogique oui. au complet. Et du coup, malheureusement, c'est loin d'être institué, c'est loin d'être une norme. Et surtout, pour chacun de ces enseignants qui tentent de faire ça, c'est un parcours du combattant.
Mais oui, très clairement.
Donc,
très clairement.
Ouais. Bon, il faut vraiment leur tirer un chapeau.
Ouais, bravo, franchement, mais oui. Oui, c'est génial. Et moi, mon côté optimiste, si on se dit qu'ils sont 1 million, à peu près 1 million de salariés, hein, grosso modo, hein, j'ai l'impression qu'il y a au moins la moitié, tu vois, qui sont dans cette direction-là. En fait, un peu comme des chercheurs, tu sais, dans leur classe, qui testent les choses. Voilà, c'est mon côté optimiste. Au moins la moitié.
C'est tout à fait réel. Malheureusement, je trouve que on leur donne pas assez la parole, on les place pas assez au centre des choses. Là, on attend la nomination d'un nouveau ministre de l'Éducation et il faut quand même reconnaître que depuis quelques années, les ministres de l'Éducation n'ont pas laissé beaucoup la parole aux enseignants qui sont pourtant la clé. En fait, la clé de tout ce système d'enseignement, qui sont des inspirateurs, qui sont des modèles, et on leur laisse pas assez la parole, on leur laisse pas assez d'autonomie, et véritablement, s'il y a quelque chose à espérer, c'est que les rôles s'inversent et qu'on laisse davantage les professionnels du secteur s'exprimer plutôt que des décideurs politiques, chacun son domaine, et l'éducation, quand même, je pense que c'est le domaine des enseignants.
Mais tellement, mais nous, c'est ce qu'on fait, tu vois, avec l'écosystème innovation de l'éducation, on leur donne justement la parole. C'est ce qui nous semble prioritaire.
C'est ce qu'il faut. Et il faudrait encore en faire plus, vraiment, parce que je pense qu'ils ont beaucoup à apporter pour améliorer l'éducation en France, parce qu'elle a aussi besoin d'être améliorée.
Mais bien sûr.
En termes de performance, peut-être, mais en termes de qualité d'éducation, en fait, de s'adapter aux exigences d'aujourd'hui, en fait, et surtout de ce que sera le monde demain. Exactement. Je pense que là, véritablement, il y a un gros, gros travail à faire.
Super, ben je vois que le temps file, hein, Vanessa. Merci, hein, merci pour notre échange.
Merci à toi. Et à vous tous.
Avec joie, qu'est-ce qu'on peut te recommander de mieux ?
Me recommander de mieux, ça serait effectivement que l'éducation devienne enfin une priorité, mais bon, non, sincèrement, en fait, ce qu'on pourrait me recommander, je pense que c'est ce qu'on pourrait se recommander à tous, c'est bien de se rappeler que l'éducation, elle est un droit, comme j'ai dit dès le début, mais ce que je voudrais c'est que les gens aient conscience que c'est un devoir. C'est un devoir parce que sincèrement, on peut sourire, on peut discuter, mais concrètement, là, on est dans un monde où il y a quand même des millions d'enfants et de jeunes qui n'ont pas accès à l'éducation. Eh ben, c'est autant de jeunes de génération qui sont sacrifiés. Et donc, sincèrement, ce que je voudrais, c'est qu'on ait tous conscience du devoir que c'est de permettre à des gens, quel que soit leur âge, d'accéder à l'éducation. Il faut défendre le droit à l'éducation, il faut se mobiliser. On voit aujourd'hui le droit à vivre dans un environnement sain, durable, c'est un droit et ça mobilise des millions de personnes qui sont capables d'aller dans la rue. Ils ont raison en fait de se battre pour ce droit. Et ben, j'aimerais beaucoup, beaucoup voir autant de gens se mobiliser pour le droit à l'éducation.
Ah ben, tellement, moi aussi. Ouais. Puis in fine, dis-moi si je me trompe, mais le sentiment que ça me donne, c'est que ça a un impact aussi sur la planète. Tu vois, c'est pas juste…
L'éducation et le développement durable, c'est un lien direct. Hein. On prend une règle, on tire un trait. L'éducation est la seule chose qui nous permettra de vivre dans un monde durable. C'est comme ça qu'on va changer les mentalités. C'est comme ça qu'on va apprendre à s'adapter au changement climatique. C'est comme ça qu'on va arriver à le prévenir, au maximum, en tout cas, les effets négatifs. Donc ça, c'est le lien, il est clair, il est net. Sans éducation, il n'y aura pas de monde durable et sain demain, c'est sûr.
Bien sûr. Merci Vanessa.
Merci.
Pour tout ce que tu fais, merci pour l'énergie que tu mets. On sent que tu es passionnée par le sujet. Vraiment, un grand merci. Merci pour tout.
Merci pour tout. Merci à vous. Et j'espère que les discussions sur l'éducation continueront et s'amplifieront. Parce qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin.
On y compte bien. Est-ce que, alors, je pense à une chose, parce que là, on est en train d'organiser le 6e congrès innovation en éducation qui va avoir lieu à Grenoble. Tu participes à des événements comme ça ?
Ça peut m'arriver. Oui,
ça peut t'arriver. Ok, très bien. Bon, ok. Bah, écoute, on réfléchit à la programmation. Si on voit qu'on peut te caler dedans, je te tiendrai au courant.
Okay. Avec plaisir, d'autant que je suis grenobloise.
Ah, bon, génial, ok.
Formidable. Donc, la boucle est bouclée.
Super. Passe une très belle journée. À bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois, partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.